Salut les gamers, c'est Creepers.
Salut les mélomanes, c'est Rhône.
Et c'est parti pour la Beatsbox. Attention, aujourd'hui pour cette cinquième Beatsbox, on sort les gants. On est prêt à fighter, à se taper sur la tronche, puisque pour fêter la sortie de Street Fighter V, suite de cette saga de légende où Ryu et Ken se foutent sur la gueule depuis des dizaines d'années, et ben on a décidé de célébrer les nions, et pour ça on a fait une belle petite sélection.
Alors la baston, elle se décline sous plusieurs formes. Bien sûr, il y a les jeux en versus, comme ce fameux Street Fighter qui tient une place importante dans le cœur de Creeper, ce que personnellement, moi, je m'en fous pas mal. Mais il y a aussi les Beats and All, ces fameux jeux où on arrivait tout seul à démolir une armée de méchants qui voulaient nous faire manger nos dents, c'est un peu le principe en général. Et c'est tout ce panel de jeux qu'on va passer en revue dans la sélection du jour.
Allez, c'est parti, Hadouken!
À tout seigneur, tout honneur, et on commence par Double Dragon, dont on vient d'entendre la musique de l'arcade. Le jeu est sorti en 1987 sous la houlette de Technos, et c'est rien de moins que le jeu fondateur de Beats and All, puisque c'était la première fois qu'on pouvait jouer en coop, et surtout qu'on avait une vraie palette de coups étendue, pas seulement le coup de poing et le coup de pied, dont la fameuse manchette bien cheatée qui permettait de faire la totalité du jeu, pratiquement. Alors moi j'étais un énorme fan de Double Dragon, et notamment pour une bonne raison, c'est que sur certaines bornes, quand on mettait des pièces au moment du générique de fin, on avait le double de crédit. Ce qui fait que j'avais pour habitude d'aller dans les salles d'arcade, de mettre mes 2 balles et de terminer le jeu, je remettais 5 francs derrière et je revendais les crédits, ce qui fait que je jouais vraiment pour rien, quoi. Alors évidemment je faisais ça un petit peu en douce, hein, mais c'était une bonne technique d'escroc pour pouvoir jouer à l'œil. Alors voilà un bon démarrage, donc on va continuer, et pour la suite j'en ai qu'une chose à dire, c'est Cagno Degit, Cagno Degit. We'll be right back.
Alors on reste dans le culte, mais cette fois surtout dans le film culte, puisqu'il s'agit de l'adaptation du film The Warriors, film incroyable, Warriors, film de Walter Hill, donc sorti en 1979. Alors bien sûr, moi j'ai pas l'âge, donc je ne l'ai pas connu à l'époque de la sortie. Par contre, la gifle a quand même été énorme au moment de la découverte, surtout qu'il y a eu pas mal d'éditions Blu-ray de très très grande qualité pour découvrir ce film comme il se doit. En tout cas, le jeu est sorti sur PlayStation 2, Xbox et aussi une version PSP, donc c'est un jeu qui est développé par Rockstar. Donc Rockstar qui est bien connu pour les licences justement, alors il y a Red Dead Redemption, on a aussi donc les GTA forcément, hein. Et encore une fois, on a une parfaite utilisation de la bande-son, une ambiance particulièrement travaillée et respectueuse d'ailleurs du film d'origine. Donc c'est vraiment un jeu étonnant, puisque comme on l'a dit, c'est une adaptation d'un film, donc logiquement, normalement c'est nul, sauf que cette fois, c'était cool. Donc on était vraiment plongé dans l'ambiance assez crapoteuse du film de Walter Hill, ce bon Walter, qui savait vraiment faire de bonnes séries B en tout cas à l'époque.
Ah, ça, oui.
Et donc c'était vraiment un très très bon réalisateur, et donc cette fois Rockstar rend honneur à son travail et fait un jeu ultra jouissif, avec une ambiance, comme je l'ai dit, vraiment, vraiment bien faite, avec énormément de coups, plein de choses à faire dans ce petit jeu, et on suit vraiment la trame principale du film. Et d'ailleurs l'intérêt, parce que même à l'époque, on pouvait même carrément se dire que c'était un vrai beat'em all en live, le film The Warrior, au niveau de son architecture.
Construit, donc c'est un jeu niveau, vraiment... Hein, même le film était construit comme s'il y avait des niveaux.
C'est ça, il y avait une introduction vraiment avec la mise en place de l'histoire, et là on commençait à courir avec le gang des Warriors qui a arpenté un petit peu les rues et qui affrontait différents gangs qui étaient très caractérisés. Justement, il y avait le gang des joueurs de baseball, il y avait les punks, etc. Donc c'était très très travaillé à ce niveau-là. Donc on avait un vrai beat'em all filmé, et donc là cette fois on a un vrai bon beat'em all en jeu vidéo, et c'est grâce à Rockstar que l'on le doit. Allez, on va continuer à nettoyer les rues, et cette fois on va affronter des méchants ninjas.
C'est un petit mix que vous venez d'écouter. Alors le deuxième morceau vient de Final Fight, édité par Capcom en 1989, qui a fait les beaux jours de la Super Nintendo également. C'est une sorte d'évolution graphique de Double Dragon. Bon, pour moi c'est un jeu pas extraordinaire, puisqu'il avait le désavantage d'être contemporain de Street of Rage qui l'explosait un petit peu, hein, donc... Au passage, je suis vraiment désolé, il n'y aura pas de Streets of Rage aujourd'hui, on en a déjà pas mal parlé. Donc, eh ben oui, il faut aussi faire des choix. Mais je voudrais vous parler notamment du premier morceau que vous avez entendu, qui vient d'un jeu qui me tient à cœur, notamment pour son titre qui est absolument stupéfiant, Bad Dudes vs Dragon Ninja.
Ça a vendu du rêve. Hein.
Alors, avec un titre comme ça, franchement, ça fleure bon la canon ou je...
Clairement, c'est Michael Dudikoff.
Donc ouais, c'est le Ninja Blanc, enfin, le titre est absolument extraordinaire, le jeu est pas désagréable aussi, mais
sympa.
Bon. Quand on a un titre pareil, de toute façon, on mérite forcément d'être en bonne place dans le top des beats and all existants.
De toute façon, tu passes devant une jaquette pareille, au minimum t'es curieux.
Au même minimum. Si, même s'ils écrivent Dragon Ninja en gros, en Europe, en mettant un petit Bad Dudes, le Bad Dudes quand même, il fallait vraiment le trouver, quoi, celui-là.
Clairement.
On continue dans le délire bien daté 80s avec le morceau qui arrive.
On est dans le 80s, mais pas vraiment. Alors, je vais m'expliquer un petit peu, puisqu'il s'agit de la bande originale du jeu Kung Fury. Donc, Kung Fury, qui était un projet financé par Kickstarter de mémoire, donc par l'Internet, donc par vous, qui avez donné des sous pour que ce court-métrage puisse exister. Et donc, c'est l'adaptation d'un court-métrage, alors un peu foufou, mais pas tant que ça. Tu vois, moi, j'ai un petit peu des réserves quand même là-dessus, et j'ai même préféré d'ailleurs le clip de David Hasselhoff. Donc là, c'est pareil, comment on peut résister à l'envie de regarder un clip de David Hasselhoff mélangé avec du, donc il y a du kung-fu, il y a des nazis, il y a des vikings, des robots, enfin bref, c'est absolument...
Des dinosaures qui crachent des lasers aussi, quand même.
Et oui, des dinosaures qui crachent des lasers, donc tout un programme. Alors, ça fonctionne les premières minutes, sauf que voilà, ça dure une demi-heure, il n'y a pas vraiment d'histoire, donc autant dire que sur la longueur, c'est un petit peu épuisant, c'est un petit peu vide, surtout, parce que ça essaye de retravailler l'imagerie un petit peu années 80, et je trouve pas forcément que ça fonctionne sur la longueur. Ça reste plutôt agréable à regarder, sauf que bah, le réalisateur et aussi l'acteur principal, il n'a pas forcément un charisme incroyable. Donc on est loin justement de nos donneurs de coups de savate des années 80 dans les films de canon justement. Mais en tout cas, le jeu est plutôt rigolo. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Steam, il est sorti sur PlayStation 4, il est sorti sur PS Vita, je crois. Ça joue avec deux boutons, vous tapez à gauche, à droite, avec un espèce de rythme. Donc il faut vraiment enchaîner les ennemis pour pouvoir les savater, faire monter le combo, avoir plein de points, etc. Donc ça se joue vraiment au score. Donc c'est un petit jeu qui coûte 1, 2, 3 euros, ça va dépendre des promos, donc je vous invite à l'essayer. Mais la bande-son est vraiment cool, donc elle est faite par Mitch Murder, qui est un spécialiste de la Soundwave, qui est bien connu de cette scène-là. Et voilà, il me semble important de le mettre dans cette catégorie voilà du choix des jeux de baston, un petit peu beats and all, parce que j'adore vraiment cette musique, et parce que le jeu est sympa, et parce que si vous aimez David Hasselhoff avec une coupe de mulet qui fracasse des ninjas, c'est plutôt cool. Allez, cette fois, on reste encore une fois dans l'adaptation d'un film culte, mais cette fois de manière un petit peu bizarre.
Vous avez sans doute reconnu la musique de Die Hard Arcade, sortie en 1996 et développée par Sega, l'occasion de balancer un petit yippie-kaye pauvre con, parce que c'est toujours bien de balancer un petit yippie-kaye pauvre con de temps en temps, et adaptation hein, du chef-d'œuvre de John McTiernan, enfin adaptation, pas vraiment. Une drôle d'histoire pour ce jeu qui à l'origine s'appelait Dynamite DK, qui était une sorte de suite spirituelle de Streets of Rage, et qui pour son exploitation en Europe a été très maladroitement adapté en une espèce de piège de cristal pour profiter du succès du film. Alors l'adaptation en fait a consisté hein, à coller des logos du Nakatomi Plaza du film un petit peu partout et surtout de faire une jaquette avec un dessin particulièrement laid qui peut...
Avec Marcel Blanc.
Ouais, avec, voilà. Avec un Marcel Blanc, avec beaucoup d'imagination, on peut peut-être reconnaître Bruce Willis mais il faut quand même pas mal d'imagination, hein. Sinon l'histoire n'a rien à voir. Ça n'a en fait pas grand rapport hein, avec le film, le titre du film qui est inscrit sur la jaquette. Alors par contre la musique elle est vraiment sympa, elle a été faite par Howard Drossin qui a pour habitude de travailler pour le cinéma. Bon j'ai pas trouvé vraiment de film majeur dans son œuvre. Par contre au niveau jeux vidéo il a travaillé sur beaucoup de titres dont certains qui sont excellents comme Comic Zone ou Baldur's Gate 2, des jeux qui se retrouveront un de ces quatre chroniqués dans la Beatsbox probablement. Et tout ça donne une musique bien rythmée, mais surtout bien burnée, hein, comme l'étaient les films à cette époque. Bon, on a savaté du voyou, c'est bien gentil. Et si on allait faire un petit tour à l'école maintenant ?
涙の意味を忘れない無駄に さん誰もが何かを求め抱き合って生きてゆくから胸に刻むように今を駆け抜けろ
Et voilà une musique qui file la banane, c'est composé par Takumi Ozawa est chanté par un mec très très content, Isao Bito. Cette musique pleine d'énergie, c'est rien de moins que l'intro de l'excellent, et je pèse mes mots, Rival School, jeu de baston développé par Capcom sur PlayStation 1, bien sûr en arcade. Donc c'est un jeu assez particulier qui n'a rien à voir entre guillemets avec les ambiances qu'on a l'habitude d'avoir sur Street Fighter ou des jeux de baston un peu comme ça habituels. Là, c'est un jeu où différentes écoles s'affrontent, et du coup, vous avez chaque étudiant va avoir une technique de combat particulière, alors du coup, ça donne des affrontements un peu bizarres, par exemple, entre un nageur synchronisé, un joueur de baseball, donc chacun va avoir ses coups, donc on peut aussi se battre en équipe, donc avoir
des coups spéciaux,
voilà, un collège fou, c'est exactement ça. Alors c'est une série que j'adore, donc il y a eu deux jeux, il y a eu quelques apparitions forcément de certains personnages dans d'autres titres Capcom, mais c'est une série qui me manque énormément. Alors s'il te plaît Capcom, je sais que tu écoutes cette émission, et toi qui aimes faire des suites à tirer l'arigot, fais-nous un petit reboot, c'est la mode, tu sais les reboots un petit peu, et les Madeleine de Proust, venez avec votre petite Madeleine, on va vous vendre plein de trucs, faites-nous un nouveau Rival School, un reboot, je m'en fous, j'ai envie de rejouer à Rival School, ou même ressortez le 1, parce qu'il est dispo sur le store PlayStation aux États-Unis, mais pas chez nous, je suis un petit peu triste. Alors s'il te plaît Sony, fais un petit effort quoi, merde, tu ramènes Shenmue et tout, mais pas Rival School, je suis un peu déçu. Voilà, en tout cas Rival School, j'adore ça, les musiques sont excellentes, et vous l'avez vu avec ce superbe thème principal. Alors là on change du tout au tout, on enfile les peaux de bêtes et on va tabasser des méchants.
Vous avez entendu le morceau Wilderness, très connu, hein, que je vous propose dans deux versions, dans la version 16-bit ou dans la version remasterisée sur la compilation dans l'anthologie sortie sur PS2 un petit peu plus tard. Donc vous choisissez, moi j'aime bien les deux, j'arrivais pas à me décider, donc hop, je vous mets les deux. Voilà, c'est fait. Le jeu original est sorti en 1989, bien entendu c'est du Sega, on est dans un gameplay ultra efficace avec pas mal de variations dans ce qu'on pouvait faire, c'était vraiment le Street of Rage de l'Heroic Fantasy, je sais pas combien de fois je vais réussir à dire Street of Rage pendant cette émission. Mais je...
C'est compliqué hein, effectivement.
Ah oui, je pense que je vais encore réussir à le placer une ou deux fois peut-être. Alors, on entendait tout à l'heure Creepers réclamer un nouveau Rival School, et je le comprends, et j'aimerais pouvoir réclamer un nouveau Golden Axe, mais j'ai envie de dire finalement non, quand je vois ce que Sega fait de ses licences, qu'il laisse Golden Axe tranquille, même si ça me manque un petit peu, et notamment ces musiques comme celles qu'on vient d'entendre, complètement épiques, qui fleurent bon la sueur et le cassage de crâne barbare. Voilà, c'est un truc qu'on croise plus trop, et ouais, finalement ouais, j'aimerais bien revoir un Golden Axe quand même. On va rester dans l'Heroic Fantasy un petit peu décalé avec un méga classique. Bon bah là je fais vraiment les présentations, normalement vous avez tous reconnu God of War 3, notamment avec le morceau Glory of Sparta, hein, le titre déjà veut tout dire. Donc sorti...
Sparta.
On va vous en mettre plein la gueule. Le jeu est sorti en 2007 sur PS2 des studios de Santa Monica et ça a été une belle claque. Le premier God of War était déjà... excellent, mais ce God of War 2, c'est pas loin d'être une petite perfection dans le domaine du beat'em all. Il y a des situations variées, il y a de l'action sans arrêt, il y a des idées en pagaille, il y a des décors qui sont superbes, qu'on peut redécouvrir d'ailleurs dans la réédition sur PS3 en HD, hein, ces fameuses rééditions. Eh bien, il se trouve que dans ce cas-là, moi je l'ai bien apprécié, la réédition, j'ai à nouveau redécouvert le jeu et à nouveau je l'ai adoré. D'autant plus que c'est sorti à peu près en même temps que God of War 3, qui est loin de m'avoir fait le même effet que son prédécesseur. Au niveau de la musique, et ben voilà, l'OST est dans le ton du jeu, c'est-à-dire qu'elle est juste formidable. C'est majoritairement très guerrier bien sûr, mais aussi avec des petits passages plus calmes, plus tranquilles, comme le morceau que vous entendez pendant que je parle. Donc on a énormément de puissance dans cette musique, mais également beaucoup de mélodies, ça reste en tête. Il y avait une édition CD qu'on peut encore trouver aujourd'hui, mais à 35€, et oui, parce que, ben voilà, faut la trouver quoi. Mais si vous la croisez, je ne peux que fortement vous conseiller d'acheter ce CD, c'est une BO absolument remarquable. Donc, on est retourné un petit peu dans le passé avec God of War 2, et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on continue de se promener dans le temps.
Alors généralement, quand on demande aux gamers leur top du jeu Beat'em All sur Super NES, eh ben ce jeu ressort assez régulièrement. C'est Turtle in Time, donc le jeu avec les Tortues Ninja. Vous l'aurez reconnu, les quatrièmes aventures des Tortues Ninja, donc édité et développé par Konami. Donc c'était la musique du niveau Big Apple 3 AM, hein, on l'entend au tout début. Alors c'est une musique hyper énergique qui nous met vraiment dans l'ambiance. Donc c'était un jeu de baston, Beat'em All complètement survitaminé. Donc on pouvait jouer bien sûr les quatre Tortues Ninja complètement folles. Donc on essayait de récupérer, parce que l'intro du jeu c'est juste la Statue de la Liberté qui disparaît. Et donc du coup, merde, les tortues vont essayer de récupérer la Statue de la Liberté et vont voyager dans le temps pour essayer d'affronter Shredder et tout le clan des Foot, voilà, au fur et à mesure de toute façon. Alors c'est composé par Matsuhiko Izumi et Kozo Nakamura. D'ailleurs, ils ont participé à la plupart des bandes originales des jeux de Tortue Ninja. En tout cas, c'est un jeu que tout le monde connaît, c'est un jeu qui est toujours hyper cool à jouer. Et surtout, il faut oublier le remake qui a été fait par Ubisoft, qui est juste catastrophique. Ça fait toujours plaisir de le dire.
Et puis, ça nous rappelle qu'il y a une époque où Konami, ben, c'était bien.
C'est vrai. À l'époque, ils faisaient des jeux, Konami. Maintenant, c'est fini. Allez, on quitte nos quatre tortues préférées, mais on reste en compagnie de batraciens bien vénères. Ouais. Nous sommes toujours sur Super Nintendo, et cette fois, donc, ce sont des grenouilles, ce sont les Battletoads, pour le jeu Battletoads in Battle Maniacs. C'était la musique Bonus and Last Battle, donc c'était un jeu qui était très très dur. À l'époque, je n'ai jamais réussi à dépasser le niveau avec les motos volantes, parce que je trouvais que la difficulté était super mal réglée sur ce jeu. Et encore maintenant, sur la compile rare que j'ai prise sur Xbox One, j'ai bien du mal à passer ce niveau-là.
Bon, j'avoue, j'ai eu du mal aussi. Hein, donc,
Il est vraiment, vraiment ardo ce jeu-là. Par contre, c'est un jeu qui garde une énergie incroyable, qui est d'ailleurs bien aidé par la bande-son de David Wise, un habitué des productions rares, puisqu'il a bossé entre autres sur les Donkey Kong Country. D'ailleurs, il est revenu même sur le dernier Donkey Kong sur la Wii U, le Tropical Freeze. Il a aussi bossé sur Viva Pignata. Enfin bref, c'est un mec bien bien connu des fans de Rare. Et donc sur ce jeu-là, il a fait un boulot absolument incroyable. Il y a un côté rock'n'roll, très très comics aussi, hein, ça va très bien avec l'ambiance du jeu. Donc c'était un jeu qui était très compliqué, on pouvait aussi jouer à deux, hein, jouer avec mes frangins à l'époque. Donc c'est un jeu qui reste cool, j'aime le parcourir de temps en temps, mais pas trop longtemps parce que je suis toujours bloqué au même niveau. Donc ça me fait un petit peu chier. Mais c'est comme ça, voilà, l'ambiance du jeu est vraiment classe, et donc si vous pouvez l'essayer, hein, et bien, puis ça se trouve sur la compile rare et c'est plutôt bien refait. Plus proche de nous, on va plonger dans une ambiance plus médiévale, mais tout aussi folle. We'll be right back.
Castle Crashers est sorti en 2008 et développé par The Behemoths. C'est sorti sur le Xbox Live Arcade et le PSN, mais c'est surtout sur Xbox Live Arcade que le jeu a fait un véritable carton. Il faut dire que y a de très bonnes raisons pour ça. Déjà parce que le jeu est ultra fun, donc on va aller contrôler des petits chevaliers dans un aspect graphique qui ressemble un peu à un jeu Flash amélioré. C'est hyper stylé et c'est surtout très très drôle et plein d'énergie. Donc des tas de bonnes raisons de s'y mettre. Et au niveau musical, ça vous a peut-être surpris parce que c'est vrai que quand on entend le son, ça pourrait très bien être le son d'un gros jeu, d'un triple A ou d'un film hollywoodien. Mais non, c'est bien pour Castle Crashers et ses petits chevaliers colorés qui aiment buter de l'ogre et enfin tout ce qui leur tombe sous la main en fait, hein. Et ben parfait, ça donne un mélange absolument détonnant. C'est un petit jeu, mais c'est très très cool. Si vous ne le connaissez pas, ce qui serait assez surprenant, eh ben écoutez, il faut s'y mettre.
Mais en plus, Rhône, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce petit bijou jouable à 4, est-ce qu'il ne serait pas ressorti récemment ?
Eh ben si, il a été remasterisé, ce qui est quand même assez incroyable quand on voit un jeu qui est techniquement aussi simple. Il doit y gagner de façon absolument démentielle, quoi, probablement. Bon, en tout cas, remasterisé ou pas, c'est un super jeu, il faut y jouer, allez-y. On va continuer dans la série des jeux un petit peu délirants, avec cette fois-ci un mélange franchement détonnant.
Tout à l'heure, on était justement dans le titre qui vendait du rêve avec Bad Dude versus Dragon Ninja. Et bah cette fois, on a Cadillacs and Dinosaur.
Wow.
Alors, on vient d'écouter la musique Jack's Garage. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est pas un jeu que j'ai énormément parcouru parce que je l'ai découvert chez un ami sur sa borne d'arcade. Donc, je l'ai vraiment découvert dans le luxe. Vous voyez, moi, j'étais plutôt bien. On était posé avec nos petits joysticks et puis on s'éclatait comme ça à affronter tous les super vilains qui nous tombaient dessus. Et c'est vraiment la musique qui m'a frappé. Je trouve que la bande-son en général de ce jeu est vraiment fabuleuse. Donc c'est un jeu qui a été développé et édité par Capcom, qui est sorti en 1993. Donc j'aurais pas énormément d'anecdotes sur ce jeu, que ça soit personnel ou au niveau de la construction du jeu. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est cool, que la musique est cool, et donc que si vous y jouez, bah vous serez cool. Alors reste dans le cool. Et cette fois avec un jeu Platinum Games. Ah, The Wonderful 101. Alors là, on vient d'écouter la musique Planet Destruction de ce jeu complètement fou. Alors généralement, de toute façon, quand vous avez un jeu Platinum Games, vous pouvez coller juste à côté complètement fou, puisque les mecs sont complètement tarés. Ils arrivent à nous faire des univers assez dingues, et là, on est un peu dans le mélange entre le Sentai et le jeu de destruction, puisqu'on va jouer plein de petits super-héros qui vont être accompagnés par plein d'habitants qu'on va sauver au fur et à mesure des parties, et plus on sera accompagné d'habitants, plus on aura une armée, et plus nos coups seront surpuissants. Donc pourquoi ça a fait un bide ? Alors déjà parce que c'est un jeu Platinum et que tous les jeux Platinum font des bides, ça c'est obligatoire. Voilà, je ne sais même pas comment ils arrivent encore à avoir des sous parce que tous leurs jeux font des bides. Et en plus c'est un jeu Wii U. Alors là du coup on est dans le Platinum Games plus Wii U, donc autant dire que là le bide est intersidéral. Et encore une fois ce n'est pas mérité puisque c'était un, et c'est encore un de mes jeux préférés sur la console, un des jeux qui utilisait le mieux la petite tablette, hein, la tablette que personne n'avait compris et encore maintenant que personne ne comprend malheureusement. Donc c'est un jeu complètement fou, un mélange entre du beat'em all, de la plateforme, alors un petit peu de jeu de rôle, mais pas beaucoup, puisqu'on peut gérer un petit peu ses personnages. Donc c'est avec une mise en scène de dingue, donc si vous aimez un peu les Bioman, que vous êtes un peu comme moi avec un enfant qui est en plein milieu de la tête et qui aime de temps en temps prendre le contrôle, et ben lâchez-vous avec The Wonderful 101, c'est un jeu qui est, à mon avis, comme tous les jeux Platinum, placé à devenir culte. Donc éclatez-vous avec ça, prenez-vous une Wii U, et ben... peut-être pas forcément juste pour ça, mais en tout cas pour moi ça vaut clairement le coup, c'est un jeu qui est passé complètement inaperçu, et voilà, donc je voulais absolument vous mettre une de ces musiques aujourd'hui.
So wonderful, wonderful,
wonderful, wonderful, wonderful. Allez, puisque vous n'y avez pas joué, vous irez tous en enfer.
Dante's Inferno est sorti en 2010 sur 360 et PS3, et pour moi ce jeu c'est un petit peu un ovni. Un ovni à cause du thème qui est traité, donc on va contrôler un croisé qui va traverser les enfers pour retrouver sa dulcinée. Et le jeu est basé sur l'enfer de Dante, et donc ces fameux cercles qui représentent les travers de l'humanité. Et pour en voir le bout, eh bien, il va falloir affronter justement les pires défauts des hommes, l'avarice, la luxure, enfin, dans un univers incroyablement glauque et malsain. Donc le concept est béton, c'est super original, et c'est lassant. Et oui, malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de la promesse. Aussi bien dans le gameplay que dans ses graphismes. on a beaucoup de répétitions, et si on est hyper impressionné par ce qui est présenté pendant les 2-3 premières heures, ben il faut bien dire qu'on en a vite assez marre, quoi. D'ailleurs, je vais vous avouer, je ne suis pas allé au bout, hein, à cause de cette lassitude.
Tu l'as fini, toi?
Oui, je l'ai fini.
Comme tu le dis, ça fait partie des jeux qui sont sauvés par leur l'originalité de base. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré l'ambiance, je voulais vraiment voir juste les différents cercles de l'enfer, comment ils allaient être représentés. Et c'est vraiment ce qui m'a tenu, le côté très glauque jusqu'au boutiste un petit peu de la direction artistique m'a vraiment plu. Et du coup, je l'ai terminé. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé.
Mais autant j'ai aimé cette direction artistique, autant le fait qu'on soit toujours dans la même palette de couleurs, notamment, moi, m'a beaucoup lassé. Mais cela étant, son originalité est telle que je trouve que ça vaut le coup de s'intéresser à ce jeu. Il était contemporain de God of War 3, que lui, j'ai fini pour le coup, mais... Même si je me suis lassé sur Dante's Inferno, ben j'ai préféré, à cause de ce regard un peu différent. Alors au niveau de la musique, c'est Gary Shiman et Paul Gorman qui s'en sont occupés, et elle est un peu à l'image du jeu, c'est-à-dire lassante. Elle est pleine d'idées, assez beaucoup de cœur, assez triste, assez glauque, ça donne une très bonne première impression, mais malheureusement très vite on se rend compte qu'il n'y a pas de thème clair qui se dégage, et ben finalement ça finit par ressembler un petit peu à quelque chose un peu sans queue ni tête. Donc à écouter vraiment par petite dose, malheureusement voilà, des idées pas forcément super bien exploitées. Donc c'est terrible, je viens de parler longtemps d'un jeu que j'ai un peu démonté tout en disant qu'il faut vraiment y jouer. Mais oui, c'est un paradoxe, mais c'est vraiment ce que je pense de ce Dante's Inferno.
Alors, de toute façon, un jeu ou un boss à l'essaim qui crache des araignées, il ne peut être que sympathique.
Allez, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé pendant cette émission. Revoici les Ninja. On vient d'écouter Fighting Soul, qui vient de Ninja Gaiden 2, sorti en 2008 sur Xbox 360 et développé par la team Ninja pour Tecmo. Je suis désolé, je peux pas m'empêcher de dire Ninja. C'est tellement sympa à l'oreille. Alors, je vais avoir vraiment du mal à vous parler de ce jeu parce que il est super beau, il y a une ambiance de fou, mais pour moi c'était trop dur, c'était trop bordélique, ce qui fait que je suis vraiment pas allé bien loin.
Qu'est-ce que c'est Z ?
Alors, et oui, et c'est Z. Ça, c'est Z.
C'est vraiment une série qui est ultra Z, quoi.
En fait, je pense que c'est quand même une série qui confirme le fait que quand il y a Ninja dans le titre, c'est Z.
Ah mais ouais. Clairement, mais là, c'est Itakagi qui... Et là, il l'a prouvé que son dernier jeu, là, sur Wii U, que le mec, c'est le roi du Z. Donc, à mon avis, si on le tient pas un minimum avec un producteur autour, parce que là, c'est... Déjà, ça partait complètement en sucette dans le 2, dans le 3, enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Mais le mec, c'est le roi du Z.
Bon allez, voilà, ça valait quand même le coup d'en parler, c'était un beau jeu qui a fait pas mal parler de lui à sa sortie. On était dans le Z, on était dans l'énergie des ninjas.
Ninja !
Maintenant, du Z, passons au Zen.
Alors vous venez d'écouter l'étonnante musique Healing in the Shadow du jeu Bushido Blade, donc un jeu tout à fait réjouissant à l'époque de la sortie. Alors réjouissant, ça va vraiment dépendre de quel joueur vous êtes, parce que c'était un jeu assez bizarre, hein, puisqu'on jouait justement des guerriers Bushido, donc on s'affrontait avec des armes blanches, c'était un petit peu à la mode avec Soul Blade, Soul Calibur, etc. C'est sorti sur PlayStation 1, c'était fait par Squaresoft, mais c'était pas Square Enix encore à l'époque. Donc c'était un jeu où on s'affrontait à un contre un dans des univers qui reprenaient un petit peu les poncifs du Japon médiéval. Et donc la particularité, c'est qu'on pouvait mourir en un seul coup. Donc du coup, vous aviez plusieurs techniques de combat différentes, donc toujours avec des armes blanches, et donc vous pouviez alors vous balader un petit peu en liberté dans le niveau, donc vous pouvez même couper des bambous. ça c'est important.
Ça c'est
on
bien.
Vous pouvez couper des bambous. Alors vous aviez le petit bambou, il était coupé, il glissait et il tombait comme dans les films de Yang Zimu, vous savez, des films tout chiants avec des gens qui marchent sur les planches comme ça, sur les branches et qui volent en faisant des tourbillons.
Est-ce que quand on coupe des bambous, ça va, ça vient?
Par contre, parfois, quand on coupe des bambous, bah, c'est numéro 1, et c'est pas... et donc Bushido Blade, c'est un jeu qui m'avait intrigué à l'époque de la sortie, et d'ailleurs je n'ai pu le trouver uniquement qu'en commandant via nos petits magazines, vous saviez, ces choses qu'on avait à l'époque, genre Player One, etc. Il y avait des bons de commande, et je n'ai plus passé que par là, donc j'ai dû appeler ma maman, j'ai dit « Maman, je veux Bushido Blade, je ne le trouve nulle part, est-ce que tu peux me le commander ?» Et autant dire que c'est un jeu qui m'a un petit peu décontenancé, moi qui étais habitué au Street Fighter, au Tekken et toutes ces choses-là. Et donc, comme le jeu, la bande-son est un petit peu particulière, vous l'avez vu que ce morceau-là, il y a énormément de variations, plein de changements, donc c'est vraiment un titre que je voulais mettre aujourd'hui pour vous refaire penser à Bushido Blade. Il y avait eu une suite aussi à l'époque, qui a un petit peu moins marqué les esprits. En tout cas, c'est un jeu original, c'est une bande-son originale, et vous avez pu l'apprécier grâce à nous. Alors, un petit peu moins original, un petit peu plus ronflant, avec des grosses armures, voici nos amis, les Roro, les Romains.
The Son of Rome, sorti pour le lancement de la One en 2013 et développé par Crytek. Alors ça fait du bien que ce jeu existe parce que on est en période de vache maigre au niveau beat'em all depuis un bon moment et voilà, la paf pour la nouvelle console, en voilà un. Alors il s'est un petit peu fait tailler à sa sortie.
Ah, lui ont chié dessus, tout
voilà.
Ça.
Peut-être parce qu'il n'était pas forcément sur la bonne machine pour ça. Peut-être parce que on estime que les beat'em all c'est un style du passé et c'est vrai. Ce jeu n'invente pas grand-chose. C'est, comme le disait Creeper, c'est un peu ronflant. Le gameplay est pas incroyable, pas dégueu non plus, juste...
Il fonctionne.
Assez banal, mais par contre, je trouve que c'est très injuste de l'avoir descendu comme ça. Ce jeu est super beau. Il y a pas mal de variétés dans les scènes, on arrive à faire des points de vue différents. Et puis surtout, ça parle d'une époque qui n'est presque jamais traitée dans les jeux vidéo, avec ces Romains en petites jupettes.
Ah oui, on a la jupette. Hein,
là, on a de la jupette. Et c'est vrai que c'est une période qui a a priori plutôt un fort potentiel et qui étrangement est quand même bien absente de des jeux vidéo. Donc moi, j'ai bien aimé Rise Son of Rome. Voilà, je le dis haut et fort.
Alors, détail important, c'est peut-être le seul jeu... Alors toi, tu dis Crytek, moi j'aurais dit Crytek, mais bon, ça, c'est pas très important.
J'aime les hymnes.
Tu aimes les hymnes. Où il y a une histoire cohérente.
Parce c'est vrai.
Que moi, Crysis, je n'y comprends rien.
Ouais.
Et je pense que eux non plus n'y comprennent rien. Et donc c'est la première fois que j'ai eu envie de terminer un jeu parce que j'ai l'histoire honnêtement est plutôt sympathique, plutôt bien menée. Mmh. Et en plus le personnage est vraiment intéressant. J'ai trouvé malgré le début où je m'attendais à une coquille très très vide. Alors pour beaucoup c'est un jeu qui est très très vide. Mais j'ai trouvé que justement moi j'étais accroché par l'histoire, j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer, et la fin est plutôt chouette en plus.
Bah, absolument. Alors au niveau musique, c'est plutôt agréable à l'oreille au global sur cette OST, même si comme pour beaucoup de jeux de baston, il faut bien reconnaître, hein, y a beaucoup de morceaux qui se contentent d'abuser de percussions, de tambours, ouais, de choses comme ça, avec la mélodie un petit peu reléguée au second plan. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les deux, mais ça reste très très sympathique et ça soutient très bien l'action pendant le jeu. Bon, on a bouffé du beat'em all, allez. Et si maintenant on passait un petit peu au versus ?
Alors voilà une série qui va revenir aussi cette année, avec un 7e épisode qui semblerait soit assez attendu. Alors c'est pas ma série préférée, moi, de jeux de baston, Tekken, puisque là c'était Moonlight Wilderness, une musique que j'adore, je la trouve absolument magnifique, et c'est pour moi une des meilleures musiques de toute la série Tekken. Alors la série Tekken qui a commencé sur PlayStation 1, c'était la grosse claque à l'époque pour la console de Sony. Un jeu que j'ai parcouru régulièrement jusqu'au 3. J'avais adoré Tekken 3. Après, j'ai un petit peu laissé ça de côté. Là, j'étais revenu dessus grâce à Tekken 5. Et ce niveau-là, au clair de lune, avec cette musique vraiment, vraiment très, très chouette, ça m'avait vraiment bien accroché. Et c'était un jeu qu'on parcourait régulièrement avec des copains à l'époque au travail. Parce qu'on avait une petite borne, on pouvait jouer avec ce jeu-là. Donc, on a vraiment beaucoup joué à Tekken 5. Après, j'ai de nouveau abandonné la série. Je dois dire qu'avec Street Fighter 5, Tekken 7, ce sera pas forcément le jeu auquel je vais le plus jouer cette année. Mais voilà, ça me semblait important de mettre cette musique-là, parce que c'est une émission musicale, et donc justement, autant mettre les meilleures musiques du style. Et donc c'était Tekken 5, c'était vraiment chouette, et on est assez d'accord avec Rhône, la DA est quand même particulièrement pourrie.
Oh oui.
Mais en tout cas, les musiques sont vraiment très très bien. Alors, autre jeu avec une DA assez particulière, hein, puisque le bestiaire va un peu dans tous les sens, mais on va découvrir ça tout de suite. We'll be right back.
Vous venez d'entendre une des musiques de Killer Instinct sur Xbox One. Et alors, bon, je vais vous donner un petit secret de fabrication là sur la Beatsbox, comment ça marche. Donc, en général, on cherche d'abord dans nos souvenirs ce qu'on va mettre comme musique sur un thème décidé à l'avance. Et puis après, on cherche un peu, on creuse, on dit tiens, ça c'est peut-être pas mal, tiens, je vais écouter. Et là, pour moi, ça a été la rencontre. La musique de Killer Instinct, c'est une balle, une bombe atomique. C'est Mike Gordon qui s'occupe de ça et qui réussit à mélanger dans des mêmes morceaux des mélodies ethniques, c'est de la world music comme souvent, on en a eu un exemple juste à l'instant, avec des gros riffs de guitare, du gros rock, et quand je dis du gros rock, c'est bien du hard rock dont je parle.
Ah, il y a de la riff, hein, ouais.
Ça, c'est des musiques super dynamiques, super violente aussi, hein. Celle qu'on a passée est une des plus douces de du jeu. Ça donne une OST absolument survoltée, et moi je dois dire que c'est pas trop mon genre le hard rock, et pourtant en écoutant les musiques pour préparer l'émission, bah, j'étais en train de bouger la tête là.
Comme yeah, un chien, headbanger ouais,
comme un chien sur une plage arrière d'une bagnole.
Bah. Un vieux chien.
Ouais, non, je la bougeais bien la tête, hein. Il y avait des chaos. Du coup, je me suis un peu remis, j'ai essayé le jeu, et en plus le jeu est cool, il est super
vraiment
beau,
chouette.
Il est vraiment bien. C'est mon conseil du jour, ce sera ça, c'est l'OST de Killer Instinct qui a deux CD, hein, un pour la saison 1, un pour la saison 2, ça coûte $12 le CD, et ça vaut le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, la fin de l'émission approche, vous devinez peut-être maintenant qui va arriver, non? Vous devinez pas? Allez, un petit effort, la série de baston.
Street Fighter 4 One Again, édition de la mort qui tue. Et oui, Capcom, tu nous saoules avec tes titres à rallonge, mais merci de nous offrir des jeux de baston aussi classe que ces Street Fighter. Moi, c'est une série que je suis depuis des années, donc depuis la Super NES, on en a déjà parlé un petit peu dans de précédentes émissions, mais bien sûr, c'était indispensable de placer ça pour conclure cette Beatsbox, cette cinquième Beatsbox avant l'arrivée de Street Fighter 5. Alors, toi aussi, t'as parcouru le jeu, Rhône, hein, c'est un grand jeu. grand jeu de baston.
Ah oui, 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 moi j'ai beaucoup joué, j'ai mis beaucoup de pièces dans Street Fighter 2 où je maîtrisais très bien Chun-Li et puis j'ai arrêté après.
Oh, bah, directement, il me laisse tout seul avec Street Fighter 4. Donc en tout cas, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est, il y a eu une belle évolution depuis Street Fighter 2. C'est une série de bastons, j'en ai déjà parlé, qui me tient particulièrement à cœur de toute façon, avec des thèmes assez incroyables. Et Street Fighter 4 ne dérogeait pas à la règle, il y a eu vraiment du gros boulot à ce niveau-là. Donc je croise les doigts pour que Street Fighter 5 nous emporte avec des niveaux bien travaillés, plein de bons personnages et surtout des thèmes musicaux épiques qui donnent envie de rejouer les stages, de rejouer les stages, de rejouer les stages. Parce qu'on l'a déjà dit un petit peu de temps en temps, ça manque un petit peu d'identité parfois les jeux de baston. Donc j'espère que Street Fighter 5 va être fort à ce niveau-là, puisque normalement, alors attention, j'en rigole d'avance, normalement Street Fighter 5 sera la version ultime de Street Fighter.
Épisodique ou pas ?
Normalement, Street Fighter 5 devrait uniquement s'appeler Street Fighter 5, mais je me rappelle qu'à l'époque de Street Fighter 4, Capcom nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu et je ne ferai pas de suite à rallonge ». En tout cas, Street Fighter 5 devrait être accompagné, bien sûr, de plein de DLC, de plein de belles choses, chères, forcément, puisqu'on a plein de personnages très très chers. Mais en tout cas, je serai présent à la sortie et je vais tous vous défoncer la tête sur l'internet.
Et ben voilà, moi je crois que là on peut le dire, on est KO. On s'en est mis plein la tête pendant un petit peu plus d'une heure comme d'habitude et on arrive à la fin de la Beatsbox. Donc c'est fini pour ce fight, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude nous ça nous a beaucoup plu de le faire. Restez bien avec nous, la prochaine Beatsbox il y aura à nouveau du combat puisqu'on va vous proposer un versus dont vous nous direz des nouvelles.
Alors voilà, du beau suspense. Alors on a plein de bleus, on va conclure là-dessus. On vous donne rendez-vous sur pcqdg.com, sur xboxygène.com, sur Bad Geek aussi, hein, notre diffuseur maintenant habituel avec PodCloud. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur iTunes, sinon on ira vous botter le cul les uns après les autres. Et n'oubliez pas de partager si vous appréciez ce que nous faisons. En tout cas, nous on kiffe et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures.